Nous allons aborder maintenant avec le frère Abou Idriss Mourad, qu'Allah le préserve, le respect des voisins pour cette huitième et avant-dernière intervention.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة السنة أما بعد عباد الله روى أبو داود والترمذي والإمام أحمد من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله وفي رواية من لم يشكر الناس لم يشكر الله فقبل أن نشرع في بحثنا إن شاء الله أود أن نتقدم إلى إخواني بالشكر الجزيل قائلا لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم في أعمالكم لهذه المبادرات الطيبة وجزاهم الله خيرا على اختيارهم لهذا الموضوع الحساس المهم جدا. Donc j'ai déjà cher frère, avant de commencer mon exposé, الإمام أبي داود والترمذي وأحمد selon plusieurs versions rapportent que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah سبحانه وتعالى. Donc je dis à mes frères qui sont à l'initiative de ce petit séminaire, si j'ose dire, qu'Allah سبحانه وتعالى les récompense pour ses initiatives louables, et qu'Allah Azza wa Jalla les récompense aussi d'avoir choisi ce sujet si sensible et si délicat en même temps. Vu que, comme m'ont précédé les frères, on a un déficit comportemental, et ça, la personne qui va dire le contraire, on a un déficit grave sur le plan du comportement, et ça dans tous les domaines. Donc moi, les frères, ils m'ont demandé d'intervenir sur les droits du voisin. Donc on va commencer, Inch'Allah. Comme vous le savez, l'islam a accordé une attention particulière aux relations entre voisins. C'est ainsi qu'il a incité les gens à être bienveillant envers leurs voisins, aussi bien en acte qu'en parole, et a interdit tout propos et geste susceptible de lui causer du tort. Plus encore, il a fait de cette attitude de bonté éloignée de toute malveillance un élément faisant partie intégrante de la foi, et a mis en doute la foi de celui qui n'a pas mérité la confiance de son voisin. On va détailler ça tout à l'heure, Inch'Allah, par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam a également annoncé aux croyants que le meilleur d'entre eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui se montre le meilleur envers son voisin. Le droit du voisin est sacré aussi bien dans la période pré-islamique al-Jahiliya, qui donnait de l'importance au voisinage, que dans l'islam. Et la sunna prophétique purifiée est venue démontrer ses droits de la manière la plus claire possible et l'a détaillé de manière exhaustive. Ce qui a poussé beaucoup de savants et de muhaddithin à inclure le droit du voisinage dans les chapitres consacrés au comportement. C'est-à-dire, à l'Hadith, il y en a certains qui ont carrément réservé des chapitres pour ça. Donc je disais, ce qui a poussé beaucoup de savants et de muhaddithin à inclure le droit du voisinage dans les chapitres consacrés au comportement, ou dans ceux réservés à la bienveillance et aux relations parentales. Comme l'a fait l'imam muslim, rahimahullah, bawwaba baban, fi sahihihi, al-birru was-silah wal-adab. Et il parle des droits du voisin dans ce chapitre-là. Et même dans les branches de la foi, il y en a certains qui l'ont inclus dans Bab al-Iman, dans les chapitres de la foi. Comme, مثلاً, Abi Abdillah al-Hussein ibn al-Hussein al-Halimi, al-Mutawafa, sanat 403 Hijri, wa huwa kitab fi thalath mujalladat, wa sammahu al-Minhaj fi shu'ab al-Iman. Comme ce grand savant, Al-Halimi, décédé en l'an 403 de l'Hégire, c'est un livre en 3 tomes. Il a appelé leur voix voilà, les chemins dans les branches de la foi. Donc c'est un livre en 3 tomes, très intéressant. Où son élève, l'imam al-Hafidh Abi Bakr Ahmad ibn al-Hussein al-Bayhaqi, rahimahullah, al-mutawafa sana 458, ويعتبر هذا الكتاب من أوسع المؤلفات في شعب الإيمان وأفضلها. وكما قلت لكم هو تلميذ للشيخ الحالمي هذا. Comme l'imam al-Bayhaqi, comme tout le monde connaît, j'espère, il est décédé en 458, et puis il a rappelé le recueil des branches de la foi. C'est un livre très très intéressant. Donc ils ont inclus le chapitre du comportement ou les droits du voisin dans les branches de la foi. Certains ont été jusqu'à traiter le sujet dans des ouvrages spécifiques, comme l'imam Abu Nu'aym al-Asbahani, décédé en 219 de l'Hégire, ou l'imam, le grand savant, l'imam al-Dhahabi, décédé en 748 de l'Hégire, et d'autres personnes encore. Donc vous voyez les frères, l'importance des droits du voisin pour ces savants, qu'accordent ces savants pour ceci. Et égard à ce qui précède, et au manquement notoire vont se rendre coupables, malheureusement, certaines personnes, alhamdulillah, qui sont telles là, qui ne sont pas nombreux, quant au respect des droits de leurs voisins, certains allant même jusqu'à leur nuire par leurs gestes et paroles, et pour répondre à l'obligation qui est faite aux croyants de s'entraider dans le bien et la crainte d'Allah, de s'exhorter mutuellement à la vérité et la patience, de recommander le bien et d'interdire le blâmable, nous allons, inshallah, détailler dans cet exposé les droits du voisin dans la lumière du Coran et de la Sunna. Se bien se comporter vis-à-vis de son voisin, c'est bien le traiter. C'est la prescription d'être aimable à son encontre. C'est donner la définition du voisin par la suite. C'est quoi le voisin? On va évoquer, Inch'Allah, quelques-uns de ses droits. Et on va essayer de définir, Inch'Allah, ce qu'on attend, ce qu'on entend, pardon, par bienfaisance à son égard. Et on donnera quelques conseils utiles, Inch'Allah. Alors, comment les savants, rahimahumullah, ont défini le voisin? Le nom voisin englobe le musulman. Le non-musulman. L'adorateur. El-fasiq. perverti, de vargondé. L'ami, l'ennemi, l'étranger, le compatriote, la personne utile, la personne malfaisante, le proche, le lointain, celui qui habite le plus près et celui qui habite le plus loin. Donc vous voyez, d'accord, la définition du voisin, elle est large. Et certains de ces voisins, il y en a qui ont des degrés plus hauts que d'autres, qui ont des droits beaucoup plus importants ou des égards beaucoup par rapport à ça. Et ça, on le verra à la fin, Inch'Allah. Ben, le plus haut est celui qui regroupe toutes les caractéristiques, ensuite celui qui a le plus, et ainsi de suite. Et c'est le contraire pour celui qui regroupe toutes les autres caractéristiques. Il faut donc donner pour chacun le droit qu'il mérite. C'est quoi la limitation du voisinage? Ben les gens, du moins les savants, ont divergé à propos des limites du voisinage. L'imam Lawza'i, rahimahullah, et Ibn Shihab, disaient, c'est 40 maisons de tous les côtés. À droite, à gauche, hein, etc. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a dit, celui qui entend l'appel, l'adhan, la prière, est un voisin. Un autre groupe, on dit, celui qui entend l'appel mineur, l'iqama, de la prière, est un voisin de la mosquée. Et d'autres, encore, on dit, celui qui cohabite avec un homme dans un campement, dans une ville, il sera pour lui un voisin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Ahzab, l'ayah Al-Sittoun, dans le sourate l'équalisé, verset 60, Allah azza wa jalla dit, « Da il lam yantahi al-munafiqoun » jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila » Je vous lis le verset en entier. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » Donc, Allah a qualifié le fait qu'ils se retrouvent ensemble à Médine. Il les a considérés comme, ils rentrent dans cette appellation de voisinage. Certes, c'est les hypocrites, ceux qui ont la maladie du cœur, et les alarmistes, ce nom de trouble, à Médine, ne cesse pas, nous t'inciterons contre eux, et alors, ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le fait qu'ils soient à Médine, sans compte, voisinage. On a défini encore le proche voisin comme étant le voisin dont la demeure est adjacente. Et Ibn Kathir, rahimahullah, dans son exégèse, dit le voisin avec qui tu as un lien, c'est-à-dire le proche voisin, c'est celui avec qui tu as un lien de parenté, et le voisin lointain, c'est le voisin dont la demeure n'est pas adjacente. Et on revient à Al-Halimi, rahimahullah, qui dit dans Shu'ab al-Iman, Minha Shu'ab al-Iman, le compagnon de voyage est un voisin, car il est en sa compagnie dans les mêmes endroits, et car chacun d'eux profite et cède de l'autre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de bien agir envers lui. Et Allah est plus seul. Donc vous voyez les frères, les gens de science, ulama, ikhtalafu fi ta'rif al-jar. Donc ils ont divergé dans la définition du voisin. Donc là on a donné un condensé des avis de la plupart des savants concernant cette définition du voisin. Donc la définition du voisin, elle est aussi large possible. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 36 من سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dans le sens des versets, Allah Azza wa Jal dit « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. » الإمام القرطبي المقرئ المحدث صاحب القراءات دي رحمه الله دون الجامع لأحكام القرآن طوم 5 183 pour ceux qui veulent revenir dessus. Et pour ce qui concerne le voisin, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de le protéger et de lui donner ses droits. Et il recommanda d'être bienveillant envers lui dans son livre et par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne vois-tu pas qu'Allah a dit, après avoir cité les parents et les proches, Allah azza wa jalla, il a cité le proche voisin, c'est-à-dire celui qui est proche. Il a cité aussi le voisin lointain, c'est-à-dire l'étranger. C'est la parole d'Ibn Abbas. Donc, le tafsir, il est attribué à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Hajar, dans le Fath, tome 10, page 441, a dit, il a été relaté par l'imam al-Tabari, l'imam al-Mujtahid, Cheikh al-Mufassirin, rahimahullah, il a dit que cette narration de Abdullah ibn Abbas, comme quoi le proche voisin, c'est-à-dire celui qui est proche, et le voisin lointain, c'est-à-dire l'étranger, il a été relaté avec une bonne chaîne de narrateurs. Yani, isnaduhu, la basale. Ensuite, il dit, donc, être bienveillant envers le voisin, qu'il soit musulman ou non musulman, et ce qui est authentique. Mais la personne doit être bienveillant envers son voisin, quelle que soit sa religion. Et la bonne conduite, peut-être, cette bonne conduite, elle peut être comment? En le consolant, en le réconfortant, ou avoir des relations amicales et s'abstenir de lui faire du mal. Donc, l'islam habitue le musulman à développer de bonnes relations avec tout ce qui l'entoure, que ce soit à la maison, dans son commerce, à son lieu de travail ou en voyage, et considère que cela représente un droit prescrit est confirmé dans le Coran et la Sunna. Cette bienfaisance ne se limite pas seulement aux voisins de la maison, aux collègues de travail, mais elle s'étend également aux États et aux collectivités, en particulier les États musulmans, qui sont plus dignes de se respecter et d'entretenir entre eux des relations de bon voisinage. C'est pas donné à n'importe qui, les frères, de monter sur une chaire et de s'adresser aux gens. C'est pas facile. Il n'est pas donné l'éloquence à toute personne. C'est pas donné à n'importe qui aussi d'écrire des ouvrages. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié aux musulmans croyants un bon comportement. Et la da'wa, on peut la faire sous différentes formes. Mais alhamdoulillah, le musulman, il a sa tatou, il a la bonne moralité, bon comportement de faire da'wah. Avec son comportement, il fait da'wah. Ton voisin, moi j'en suis sûr et certain, qu'il soit musulman ou pas, surtout s'il est non-musulman, si vous vous comportez de la manière des manières, il va s'isoler avec d'autres personnes qui ne sont pas musulmans, il va se dire, moi, mashallah, moi j'ai un voisin qui est musulman, mais mashallah, il se comporte dans la meilleure des façons. Hein? Donc, premièrement, il est interdit, les frères. Il est interdit de porter préjudice à son voisin. Ibn Hajar, al-Asqalani, rahimahullah, dans Fath al-Bari, il dit que le terme voisin, donc on l'a cité tout à l'heure, on va le répéter, inshallah, englobe le musulman et le non-musulman. Le dévot, il y a vraiment un attachement fervent pour la religion. Le pervers, l'ami, l'ennemi, l'autochtone, l'étranger, le compagnon utile, nuisible, celui dont la maison est plus proche et dont la maison est la plus éloignée. Alors, le Shaykhan, rahimahum Allah, والإمام أحمد في مسنده وكذا الحاكم وابن حبان عن أبي شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتس حديثي فبارك الله فيك الخفاء صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول من هذا الذي لا والله لا يؤمن؟ قال من لا يأمن جاره بواقئه وبواقئه. Quand vous avez une version de hadith comme celle-ci, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yuqsim, jure, vous savez très bien qu'on n'a pas besoin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous jure. Mais عندما يأتي الحديث بهذه الصيغة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم, c'est-à-dire soyez très attentifs parce que ce qui va venir est grave. Et là le prophète صلى الله عليه وسلم dit والله لا يؤمن. هنا الإيمان يعني الإيمان الكامل يعني ليس نفي الإيمان مطلقا. C'est pas la négation de la foi de la personne, mais c'est sa foi, elle sera amoindrie. Pourquoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le jawab par la suite. Man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Dans les deux authentiques, dans le Musnad de Imam Ahmad ainsi que le Hakim ibn Hibban, selon Abi Shuraih radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par Allah, il ne croit pas. Il répète une deuxième fois, par Allah, il ne croit pas. Il le redit une troisième fois. Par Allah, il ne croit pas. Et là, les compagnons s'étaient étonnés. Et puis, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est oh, messager d'Allah, lui demande Adam, ne crois-tu? Ce qu'on a Adam, c'est lui qui ne croit pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de la méchanceté et des maux. M-A-U-X. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم qui dit ça. C'est qui celui-là? La personne dont le voisin n'est pas à l'abri de la méchanceté et des maux. Donc on fasse très attention les frères. Sachant que celui qui commet des péchés, sa foi se trouve amoindrie par ce comportement. Yanqusu imanuhu birtikabi al-ma'asi. Donc, sa foi se trouve amoindrie par ce comportement néfaste, ni d'être méchant. Il nuit à son voisin. Figure aussi l'interdiction de faire subir au voisin quelques dommages. Conformément à ce hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Hurayra radhiyallahu anhu, wa man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir falyuhsin ila jari. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne fasse aucun mal à son voisin. Le hadith, il est dans l'authentique de Bukhari ou Muslim. Un autre hadith, rapporté par Abu Dawud et d'autres. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أذى جاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق ففعل الرجل وجعل الناس يمرون به ويسألونه فإذا علموا بأذى جاره له لعنوا ذلك الجار الله المستعان الله العافية فجاء هذا الجار السيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أن الناس يلعنونه فقال صلى الله عليه وسلم فقد لعنك الله قبل الناس الحديث يطن في حديث صحيح رواه أبو داود يطن encore. Un homme vint se plaindre de son voisin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit à trois reprises, rentre chez toi et sois patient. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour cette patience. Il dit, rentre chez toi et sois patient. Donc il y a quelqu'un qui vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre du comportement de son voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de quoi, hein, la patience. Mais l'homme revient. Donc la personne qui est venue se plaindre, il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que j'étais patient, mais la personne, elle ne veut pas savoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va et mets toutes tes affaires dans la rue. Tu rentres chez toi, tu prends tes affaires et tu les mets dans la rue, tu t'assois et tu restes là. Et l'homme s'exécuta. Donc il a pris ses affaires, il les a mis dans la rue. Alors les gens se mirent à lui demander, donc il pensait, il voyait, qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il lui demandait, hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, la personne, il les informa, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à maudire ce voisin. Ils commençaient à le maudire. Parce qu'il était méchant avec son voisin. Jusqu'à ce que ce voisin viennent le chercher. Hein, dans d'autres versions, donc c'est une version que je vous raconte. D'autres versions, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui était si méchante, il dit, oh prophète, oh messager d'Allah, les gens me maudissent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah azza wa jalla t'a maudit avant que les gens te maudissent. Et dans cette version, donc la personne, il est venu voir le voisin à qui il a fait du mal, il lui a dit, allez, rentre chez toi, tu ne verras plus jamais de ma part quoi que ce soit qu'il te fasse du tort. Subhanallah, mais pourquoi on arrive à ce stade-là, hein? Que les gens te maudissent parce que tu t'es comporté d'une façon nuisible ou incorrecte vis-à-vis de ton voisin. Pourquoi on est arrivé là? Et puis sachez les frères, barakallahu fikum, que le voisin en islam a atteint un rang si important que l'ange Jibril alayhi salam n'a cessé de recommander la bienveillance à son égard, c'est ce qui a fait croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les voisins allaient hériter les uns des autres. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه. Donc selon Aïcha, Umm al-Mu'minin رضي الله عنها, rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم dit, l'ange Jibril n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il lui ait donné droit à l'héritage. Donc Jibril, alayhi salam, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lui parler des voisins, des droits du voisin, des recommandations concernant le voisin, il insistait, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cru que les voisins allaient s'hériter des uns des autres. Et la bienveillance envers le voisin ne se limite pas seulement aux adeptes de notre religion, comme on avait dit précédemment, mais elle concerne également les non-musulmans. Ainsi, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, quand il égorgeait un mouton chez lui, il demandait s'il avait offert, il demandait à Ahli, sa famille, s'ils avaient offert une part à leurs voisins juifs. Et puis, il citait le hadith qu'on a cité précédemment, hein, que, comme le Prophète صلى الله عليه وسلم, مازال جبريل يصلي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي صحيح مسلم فقد روى أبا ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها معروفة بمعروف. Donc Abu Dhar dans l'authentique de Muslim rapporte: mon grand ami Khalili, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a fait cette recommandation: quand tu prépares un ragoût, augmente son eau, puis cherche une famille de tes voisins et donne-lui-en un peu avec gentillesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait de façon courtoise simplifier les choses pour l'avare et a demandé d'ajouter quelque chose qui en fait ne coûte rien, de l'eau. Pas demander de rajouter. Parce que bon, c'est pas donné à n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de rajouter de la viande, de rajouter autre chose. Donc il leur a demandé de rajouter de l'eau, comme ça, la marmite sera un peu plus pleine, et de donner quelque chose au voisin. Et avoir des égards pour le voisin englobe également le fait de lui vouloir du bien, en lui faisant la bonne exhortation. Si on peut le faire, bien sûr. Parce que si on ne peut pas le faire, on risque de faire des dégâts, en disant n'importe quoi. Comme l'a dit l'imam Suyuti rahimahullah, celui qui a du savoir, il lui fait obligation. Fardun alayh, man atahu Allahu ilma. C'est une obligation pour lui de le transmettre, ce savoir. De même, wa stadalla bi qawlillah subhanahu wa ta'ala, ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Ô Adam, informe-les de nom de toutes choses. وقال رحمه الله فرض على من لا يعلم de se taire, celui qui ne sait pas qu'il se tait. وهذا فرض عليه, c'est une obligation. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى لا علم إلا ما علمتنا, يعني خطاب الملائكة, لا علم لنا إلا ما علمتنا. Donc si on peut faire d'exhortation, les frères, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a un savoir, on a de l'éloquence, alhamdulillah, il faut le faire. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette éloquence, de monter sur un minbar et s'adresser aux gens. C'est pas donné à n'importe qui d'écrire des ouvrages, mais alhamdulillah, t'as un comportement, Utilise ce comportement, inshallah. Donc, en lui faisant une bonne exhortation, en priant Allah de le guider vers l'islam, en évitant de lui causer du tort, et en le conseillant dans le cadre de la recommandation du bien et la réprobation du mal. Parmi les droits du voisin également, Il y a le fait de s'empresser de lui adresser des salutations lorsqu'on le rencontre, musulman bien sûr, parce qu'on n'a pas à commencer le salut pour un non-musulman. De se renseigner sur son état, de lui venir en aide en cas de besoin, évidemment si tu as les moyens, de lui rendre visite lorsqu'il est malade, de lui adresser les condoléances lorsqu'il est éprouvé, de le féliciter lorsque lui arrive un événement heureux, de ne pas divulguer ses secrets, si t'en as fait part, de baisser le regard en présence de ses femmes, d'être affable, c'est-à-dire courtois, envers ses enfants, et de les orienter vers le bien, et de ne pas lui nuire en versant des ordures devant sa porte. Comme le font certains, Allah al-Musta'an. De ne pas faire beaucoup de bruit, même en écoutant le Coran, subhanallah. Ne pas faire de bruit, ne pas gêner le voisin. De ne pas stationner son véhicule à son emplacement personnel. Allah al-Musta'an, ça fait des années et des années, il y en a des fois qui sont au courant, à la mosquée de Vitry, M. Barahma, ça c'est un combat continuel. Les imams, après, ils n'arrêtent pas de me dire, chaque jumu'a, chaque halqat ilm kagla, ils n'arrêtent pas. Mais Allah al-Musta'an, je comprends pas. Ajib, subhanallah. Allah al-Mu'min al-Qiyis, al-Fatin, le musulman, subhanallah. Bon, c'est vrai. Il faut qu'on se rappelle les uns aux autres. Ça, c'est obligatoire. Subhanallah, il y en a concernant quand on te dit, on a des voisins. Ne pas, jazakallah, ne pas stationner le véhicule devant le portail du voisin. Je le dis aujourd'hui. Bon, demain, t'as oublié. Mais allez, ça. Que ce soit, subhanallah, tout le temps. Tout le temps. Bon, peut-être les frères ils ne connaissent pas, je suis le responsable là-bas. Je reçois du courrier. J'ai été convoqué plusieurs fois par les institutions de ce pays par rapport à ce genre de choses. Les réunions de quartier, ils se réunissent. Et puis bon, ils prennent des décisions comme ça entre eux, et puis ils déposent plainte, donc j'hérite de ça. Vous voyez le mal, ça retourne contre nous. Hein? Toi, t'arrives, avec ton véhicule, tu stationnes devant le portail d'une personne. Et subhanallah, et cette personne, s'il a une urgence. S'il a une urgence. Et de cette urgence, qadar Allah, il y a un malheur. Et on va dire, qu'est-ce que je veux dire, vous dites aux gens, ouais, ibadallah, Allah, il jazé comme tout le temps. Hein? Mais, vous voyez le comportement, les frères? Vous voyez le comportement? Du moins, à sortir, Allah, il jazé. Non, on stationne devant la mosquée, on discute, on court, pourtant c'est quand même, c'est la voie publique. Non, on discute, voilà. Hein? On bloque la rue, et puis, non, c'est pas un comportement de façon. Wallahi, c'est pas un comportement. Là, vous donnez une très mauvaise image de l'islam, vous causez du tort aux responsables de la mosquée, c'est ça le comportement. Wallahi, là. Donc, je disais, ne pas stationner devant l'emplacement réservé à la personne. Il faut savoir pardonner les erreurs de ce voisin. Il ne faut pas l'incommander par la construction d'un immeuble ou l'obstruction de son passage. Éviter de lui causer du tort en orientant par exemple la gouttière vers sa demeure, etc. Il faut l'honorer en le comblant de faveurs et de biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'adressant aux femmes, Ya Nisa al-Muslimat, la tahqiranna jaratun ni jaratiha, walau firsi nashat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux femmes, ô femmes musulmanes, qu'aucune d'entre vous ne dédaigne jamais ce que lui offre sa voisine, même si c'est un pied de mouton. rapporté par Al-Bukhari ou un muslim. C'est-à-dire, elle ne doit pas négliger le fait d'offrir un cadeau à sa voisine, même si elle lui offre une chose dont on ne peut pas en tirer profit. Allez, comme on dit entre nous, c'est le geste qui compte. Il faut lui témoigner du respect et de la considération à ce voisin. Pour cela, il ne doit pas l'empêcher d'implanter une poutre dans son mur, conformément au hadith authentique dans le Bukhari ou Muslim. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره. Que l'un d'entre vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur. Et Abu Huraira radiallahu anhu ajouta, pourquoi vous détournez-vous de cette tradition? Je jure par Allah que je la propagerai parmi vous. Et l'imam Ahmad rahimahullah, il dit que il incombe au voisin de permettre à son voisin de planter une poutre dans son mur s'il en éprouve le besoin, bien sûr. Et tant que cela ne cause aucun dommage. Maintenant, al-musta'an ila Allah al-mushtaka. Alors là, ce problème de construction, ça ramène à des choses. Allah ila yuhmad al-uqbah. Tout ça, min al-jahl. Min al-jahl. Quelqu'un, subhanallah, il met une poutre là, khlas, qamat al-qiyam. Des gens se sont entretués, subhanallah. Écoutez ce que dit Abu Huraira. Je jure par Allah. Il dit, regardez, écoutez, hein. Il dit, mais pourquoi vous détournez-vous de cette tradition? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la yamna'anna ahadakum jarahu an yaghriza khashabahu ala jidarih. Hein? Que l'un d'entre vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'est conformé au hadith? Pas du tout. C'est le fusil qui parle. Et ça arrive, les frères. Bon, moi, c'est une connaissance de cause que je parle de ça. Un petit litige de rien du tout. Il dit de rien du tout, les gens se sont entretués. Subhanallah. Aïna nahn. On est où là? Hein, par rapport à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yamna'anna. Allez où la clémence? Alhamdulillah, subhanallah. On va voir ce que sera. On est loin, les frères, on est loin. On est loin par rapport au texte. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens bafouent les droits du voisinage. Et leurs voisins ne sont pas à l'abri de leurs méfaits. On les voit constamment impliqués dans des litiges. Semant la discorde, la violation des droits et la nuisance par leurs actes et paroles. Il va sans dire que tout cela est contraire aux recommandations d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et constitue une cause de division entre les musulmans et l'éloignement de leur cœur. Le fait d'honorer le voisin fait partie de la foi. Les œuvres pieuses se rapportant aux droits d'Allah, comme l'accomplissement des obligations, et l'abandon de ce qui est interdit. C'est le cas, par exemple, de la bonne parole et du silence, pour ne pas dire du mal. Et tantôt, ces œuvres se rapportent aux droits de ses serviteurs, comme le fait d'honorer son hôte, de traiter son voisin avec égard, ou le fait de lui nuire. Concernant le préjudice causé au voisin, l'islam l'interdit, car causer du tort à quelqu'un sans raison légitime n'est permis à personne. Et dans le cas du voisin, l'interdiction est encore plus grave. Je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans Sahih, dans le rapporté par l'imam Ahmed, al-Bukhari rahimahullah, il l'a rapporté dans son livre Adab al-Mufrad, et l'imam al-Tabarani aussi dans Al-Kabir, avec une bonne chaîne de narrateurs. Il dit, سمعت المقداد ابن الأسود يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الزنا فقالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. قال وسألهم عن السرقة فقالوا حرام حرمه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. Donc, j'ai entendu Al-Miqdam ibn al-Aswad dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les questionna à propos de l'adultère. Ils dirent, il est interdit, il est illicite. Allah et son messager l'ont interdit. Il dit alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de commettre la fornication avec 10 femmes est de moindre gravité que le fait de commettre l'adultère avec la femme de son voisin. Il dit également, le prophète sallam, il les questionna à propos du vol. Il dit, Allah et son messager l'ont interdit. Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'un homme vole dans 10 maisons est de moindre gravité que le fait de voler dans la maison de son voisin. Méditez les frères. Abu Huraira rapporte, comme l'a rapporté l'imam Ahmed ibn Hibban et Al-Hakim, قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. Donc l'imam Ahmed rahimahullah ibn Hibban al-Hakim rapporte ce hadith. Abu Hurayra radiyallahu anhu dit, un homme a dit, ô messager d'Allah, une telle fait beaucoup de prières, d'aumônes et de jeûnes, mais elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle est en enfer. Subhanallah, le fait de nuire aux voisins, hein, comme il a dit le frère Sadati tout à l'heure, j'ai entendu, hein, Yakubu Nas ou Finari Jahannam, avec eux, de quoi? Ils ont récolté de langue. Elle nuit. À cause du tort au voisin, par sa langue. Elle est mauvaise, elle a une mauvaise langue. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle passe ses journées en prière, ses journées en jeûne, elle prie la nuit, elle fait des aumônes. Vous voyez qu'elle nuit par sa langue, subhanallah, au voisin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, elle est en enfer. Dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri des maux. Comme il dit, barakallahu fikum, faites très attention. On fasse très attention. Donc le temps il commence à s'étirer. Donc inchallah, je vais finir par quelques recommandations à vous faire par rapport aux voisins. Je me suis basé sur cet excellent ouvrage de Ali Hassan Abdelhamid Al-Halabi, Le droit du voisin. Je vous le recommande inchallah, il est en arabe et en français, beaucoup plus en français qu'en arabe. Et ce livre aussi de Cheikh Abdullah ibn Jarullah Al-Jarullah, qui est excellent aussi, Le bon comportement. Donc l'islam recommande et exhorte à la bienfaisance envers le voisin, qu'il soit musulman, mécréant, telle est la vie correcte des savants. Donc c'est-à-dire on doit se comporter de la meilleure des façons, quel que soit le voisin qu'on a en face. Maintenant, la bienfaisance peut signifier l'assistance, mais elle peut aussi vouloir dire la bonne compagnie, le fait de s'abstenir de nuire ou encore de le défendre en cas de nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte les croyants à s'attacher au noble caractère, car cela cultive l'affection et la bonne compagnie et repousse le besoin et toute cause de discorde entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de préserver le voisin et de s'acquitter de son droit. Tout comme il a exhorté les croyants à veiller sur la protection dans le Coran et au Sunna. Maintenant, si ton voisin est musulman, sunnite, obéissant, il t'est obligatoire d'observer à son égard tous les droits précités. Hein, tous les droits qu'on a cités, il t'est obligation de t'en acquitter vis-à-vis de ce voisin-là. S'il est musulman, sunnite, obéissant. Ta'alillah. Mais, si le voisin commet de manière répétitive un grand péché, comment on réagit vis-à-vis de ce voisin-là? Alors, soit il fait ça en privé, à l'abri des regards, dans ce cas, n'y prête pas attention. Toutefois, s'il est possible de le conseiller en privé, et de l'exhorter, c'est mieux. Parce qu'on nasiha ihwan, c'est pas fadiha. Hein? On conseille une personne, on le prend pas, il l'a dit à Hassan, hein, il arrive à la thérapie, il est dans les dalils, etc., si tu en as les moyens. Mais, en aparté. Hein, c'est pas... Alors, s'il extériorise sa désobéissance, comme celui, par exemple, qui traite avec l'usure, riba, mets-le en quarantaine. De même, s'il délaisse la plupart du temps la prière en groupe, enjoins-lui le bien et interdis-lui le blâmable de temps à autre, ou sinon, mets-le à l'écart. Mets-le à l'écart pour Allah, pourvu qu'il prenne conscience et tire bénéfice de cette mise en quarantaine. Parce que le hajr, et là c'est ahkam, c'est pas le but, c'est pas le sujet, mais sachez que le mettre en quarantaine des gens, il a vraiment des règles bien précises. Allah al-musta'an, wa hada qillat 'ilm wa jahl bi usul ad-din. Le frère il fait un petit truc, Allah al-musta'an, allez, hajr, hajr. Et c'est le hajr, les ikhwan, barakallahu fikoum, s'il ne ramène rien de bénéfique, ça ne sert à rien. Wallahi, ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas s'égarer. Alors, j'ai dit que, sans pour autant le prévenir de ta part, hein, sans le prévenir de ta part, de ton salut et de tes cadeaux, si tu constates qu'il persiste et il est loin du bien, détourne-toi de lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection contre le mauvais voisin. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma inni a'udu bika min jari su' fi dari al-muqama fa inna jari al-badiya yatahawwal. Ô Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le mauvais voisin en terre de résidence, car le voisin de campagne se déplace. Si le voisin est dénoué de jalousie, d'ayyut wa l'ayyadu billah, ou que les femmes de sa maison ne suivent pas le droit chemin, éloigne-toi de lui ou prends tes précautions afin qu'il ne cause pas du tort à ton épouse. Car réside là un grand danger et éprouve de la crainte pour ta faible âme. Ne rentre pas dans sa demeure et rends l'amitié par tous les moyens. Car celui-là, il peut te créer un grave danger. Il peut dévergonder ta famille. Tu risques de te faire entraîner par les passions ou le désir et tu seras touché de plein fouet dans ta propre personne. Tes enfants ont encore ton cœur. Si ton voisin est rafiri, chiite, ou adepte d'une grande innovation et que tu as les capacités de lui enseigner et de l'orienter, on revient toujours à cette histoire de capacité, hein. Fais-le. Si tu en es incapable, si tu ne peux pas le faire, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les connaissances nécessaires, tu n'as pas l'ilm qui est nécessaire pour le faire, replie-toi sur toi. Même, sur toi-même, et ne crée pas de lien d'affection envers lui. Ne le fréquente pas, et que tu t'éloignes, il préférera. Si ton voisin est non-musulman, que son voisinage, soit de par son habitation, son commerce ou sa terre, entretient avec lui de bonnes relations. Il ne faut pas lui nuire, mais quant à celui qui prend comme habitude de répondre à leurs invitations, les fréquente de manière assidue et s'ouvre trop à eux, verra sa foi s'affaiblir. Si on ajoute en plus du voisinage le fait qu'il est proche, ou que tu as avec lui un lien de parenté, son droit ne s'en trouve qu'augmenter. De même, si l'un de tes parents fait partie des gens du livre, c'est possible, car les parents, les proches ont un droit supplémentaire au droit du voisinage, donne à chacun son droit. De même, rendre la salutation, ne sois pas le premier à le saluer par le salam. Ce n'est pas musulman. Si l'un d'eux te salue par le salam, répond, et sur vous. Wa alaykoum. Le croyant est humble vis-à-vis des croyants. Il se rabaisse pour eux et doit éprouver de la fierté envers les mécréants. Je vous pose la question, les frères. Est-ce que c'est pas le contraire qui se passe? C'est le contraire qui se passe. On s'humilie devant les mécréants et on gonfle devant ses frères. C'est quoi ça? Ne me dites pas que c'est pas vrai. Wallahi, c'est vrai. Je défie n'importe qui d'entre vous de me dire que c'est pas vrai. Illa ma rahima rabbil alamin. Le musulman, bon musulman, il est humble vis-à-vis de ses frères. Il est fier devant les autres. Il faut être fier, subhanallah, de son appartenance à cette grande religion qui est l'islam. Walhamdulillahi ala ni'mati l'islam. Donc le croyant est humble vis-à-vis des croyants, il se rabaisse pour eux et doit éprouver de la fierté envers les mécréants, il ne s'humilie pas devant eux. Tout cela pour honorer l'islam et élever sa religion sans pour autant leur nuire. Attention. Sans autant nuire aux autres. On n'éprouve pas de la fierté en nuisant aux autres. Abadan, là. Donc voilà, barakallahu fikoum, quelques-uns des droits du voisinage, que le voisin soit musulman ou non, sunnite ou innovateur, pieux ou divergandé, ce sont des droits exhaustifs et de première importance, ce qui garantissent le bonheur d'ici-bas et dans le-delà. Juste pour finir, inshallah, j'aimerais juste vous rapporter quelques hadiths. Donc le premier, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, rapporte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: Arba'un min as-sa'ada, al-mar'atu as-saliha, al-maskanu al-wasi', wal-jaru as-salih, wal-markabu al-hani'. Wa arba'un min as-shaqa', al-jaru as-su', wal-mar'atu as-su', wal-maskanu ad-dayyiq, wal-markabu as-su'. Donc le hadith, il est rapporté par Al-Muhabban et Al-Khatib avec une chaîne de narrateurs authentiques. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quatre choses font partie du bonheur. C'est quoi ces quatre choses? La femme, l'épouse vertueuse. Une maison spacieuse. Le voisin vertueux. Et la bonne monture. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de ces quatre choses, sache mon frère que tu es dans le bonheur total. Par contre, quatre choses du malheur. Le mauvais voisin, il va te pourrir la vie. La mauvaise femme, c'est l'épouse, la mauvaise épouse. La maison étroite et la mauvaise monture. Un autre hadith rapporté par Ibn Majah, Abu Ya'la et Abu Nu'aym dans Al-Hilya, avec une chaîne de narrateurs qui est bonne aussi. Abu Hurayra radiyallahu anhu dit: Kun wari'an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas wa ahib lin-nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'mina wa ahsin mujawarata man jawarak takun muslima. Sois humble et tu seras du nombre de ceux qui adorent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Sois de ceux qui sont satisfaits du peu. Tu seras du nombre de ceux qui remercient le plus Allah subhanahu wa ta'ala et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un croyant. Il me reste deux et je finis. Hudhayfa rapporte que le messager Au moins, il y en a qui suit. Hein. Hein. Et j'ai dit, wa ahsan mujawarata man jawarata kul muslima. Non, non, ça, barakallahu fik, j'ai pas fini. Et comporte-toi bien envers tes voisins, tu seras musulman. Barakallahu fik, c'est dit. Alors, j'ai dit, Hudhayfa, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, فتنة الرجال في أهله وماله وولده وجاره وتكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le hadith il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hein? Donc ce hadith, Hudhayfa dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, l'homme est éprouvé à travers sa famille, ses biens, ses enfants et son voisin. Donc, il subit une épreuve par rapport à ces quatre choses. Sa famille, ses biens, ses enfants et son voisin. Le voisin est une épreuve, les frères. Et ce qui l'expie, c'est la prière, le jeûne, l'aumône, ordonner le bien et interdire le blâmable. Ça arrive. T'as anticipé. L'entraide des voisins. Hein? Donc je finis par ce hadith, inshallah, et ça tombe bien, grâce à quelqu'un comme ça, inshallah, au fil de vous du maluma. Donc, Aïcha radiyallahu anha, donc dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim aussi, elle dit, et je vous demande, barakallahu fikum, de méditer un peu, hein, parce que quand vous lisez des hadiths comme ça, c'est pas pour les lire, c'est pour que vous les méditiez, les frères, barakallahu fikum. Comme on médite les versets d'Allah, les versets du Coran, méditez les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les propos de ses épouses. Donc là, Aïcha Umm al-Mu'minin radiyallahu anha nous rapporte ce hadith, elle dit, Wallahi, inna kunna la nanduru ila al-hilal, thumma al-hilal, thalathata ahillatin fi shahrain, wa ma uqida fi abiyati rasulillahi nar. Qala qultu, ya khala, fama kana ya'ishukum. قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها فيسقينه. Donc Aïcha Umm al-Mu'minin rapporte, elle dit que par Allah, au fils de ma sœur, elle s'adresse au fils de sa sœur, elle lui dit, nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, jusqu'à trois nouvelles lunes, en deux mois, sans que nous ayons allumé un feu dans les maisons des messagers d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cuisine pas. Bayt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je lui dis, entente, de quoi alors vous vous nourrissiez-vous? Elle dit, des deux noirs, des dattes et de l'eau. Néanmoins, il y avait des ansars, des voisins du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui possédaient des bêtes laitières et envoyaient un peu de leur lait et nous donnaient à boire. Donc ça arrive très bien. Cheikh Al-Albani rahimahullah, comme l'a yakhfa an ba'd min ikhwa, il a dit que celui qui a connaissance d'un hadith faible, qu'il doit mettre en garde la communauté. Vous êtes d'accord? Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Parce que le hadith al-da'if, là, il peut délobé. Peut-être qu'il se peut que yani, le sens de du hadith, il est bon, mais il faut dire aux gens que c'est un hadith faible. Parmi les hadiths faibles, et ça je l'ai tiré dans ce livre-là, donc il coûte pas cher les frères, hein, c'est excellent, il est très bien fait. الشيخ علي حسن الحلبي يدي الحديث اللي دون ضعيفة aussi hein. Pour votre gouverne, sachez que il y a 4 tomes de ضعيفة qui sont sortis. Vous savez combien on arrive? حديث الضعيفة الإمام الألباني رحمه الله. Vous savez combien? 20 tomes. On arrive à 20. Il y en a 4 qui sont sortis. Il y a 20 tomes. Donc ça, c'est juste ma maloum. Donc, il y a des hadiths qui sont tellement répandus parmi les frères, parmi les gens, et finalement, c'est des hadiths da'if. Le premier, al-jaru qabla ad-dar. والثاني التمس الدار قبل الدار. Donc le premier hadith, donc la mise en garde de certaines paroles imputées au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le voisin. Donc ce hadith al-jaru qabla ad-dar rapporté par al-Tabarani dans le Majmou' al-Kabir, rapporté par Abu Shayba dans al-Amthal, al-Khatib dans al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami. Rapporté par Ibn Shihab, par la Vadwa, etc., etc. Et puis le deuxième hadith, il tamis al-jar qabla ad-dar, chercher le voisin avant la maison. Al-Shawkani a dit dans Maqasid al-Hasana, Ibn, c'est-à-dire qu'il y a une personne dans la chaîne de transmission, est considéré comme matroud, délaissé. Et lui, et Sa'd, tous deux ne sont pas pris en considération. Ce hadith a aussi été rapporté par Imam al-Dahabi dans Mizan al-I'tidal. Il fait partie des manakir. C'est une information réprouvée. Donc cela, ce hadith, on le met de côté. Et puis le hadith qui est vraiment répandu parmi les gens, c'est ce rapporté par al-Bazzar et uniquement par al-Bazzar, rahimahullah, dans son musnad. Son nom, Abdullah ibn Muhammad Abu Rabi', je vous passe la chaîne. Al-Jiran al-Thalatha. جار له حق واحد وهو أذن الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. Donc ce hadith là, donc il y a trois sortes de voisins, un voisin qui a un droit et c'est le voisin qui a le droit le plus moindre, un voisin qui a deux droits et un autre qui en a trois. Quant à celui qui n'a qu'un droit, c'est le voisin polythéiste, le mushrik, le kafir, avec lequel tu n'as qu'un lien, tu n'as pas de lien de parenté, si ce n'est le droit du voisinage. Le deuxième, celui qui a deux droits, c'est le voisin musulman, il a le droit de l'islam et le droit du voisinage. Le troisième, c'est celui en plus des deux, et là, un troisième, c'est le lien de parenté. Voilà. Donc, Al-Bazzar, rahimahullah, dit, nous ne connaissons ce hadith du Prophète que par sa chaîne de narration. Al-Haythami a dit dans Majmou' al-Zawa'id, le cheikh d'Al-Bazzar, Abdullah ibn Muhammad al-Harithi, est quelqu'un qui invente. Wadda. Il est aussi rapporté par Abu Shayba dans Al-Thawab, et Al-Daylami, et Al-Tabarani, comme dans Sharh al-Ihya. Donc, ces deux hadiths, le cheikh Ali Hassan, ils sont dans Da'ifa aussi, si vous voulez revenir là-dessus. Donc, c'est des hadiths, si vous les entendez, ou là, si vous lisez un livre et vous les trouvez, sachez que c'est des hadiths faibles. Voilà ce que j'ai pu rassembler comme information concernant les droits du voisinage. Maintenant, barakallah, fait comme les frères, méditez, hein. Essayez de vous comporter de la meilleure des façons de votre voisin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم.